Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Questo accadeva ad agosto quando il sindaco di Riace Domenico Lucano che da stamattina.
Bonjour à tous et à toutes, c'est une arrestation hautement symbolique qui s'est déroulée cette semaine en Italie et qui divise le pays. Celle du maire de Riace, petite ville au sud de l'Italie, Domenico Lucano est accusé d'aide à l'immigration clandestine. On l'accuse en particulier d'avoir organisé des mariages de convenance entre des habitants de son village et des femmes étrangères afin de leur obtenir un titre de séjour. Domenico Lucano engagé depuis près d'une quinzaine d'années dans une politique résolument pro-migrant pour faire revivre sa ville. Détail avec Cécile Debarge.
Mon délit, c'est un délit d'humanité. Même le juge me l'a dit. L'expression est de Domenico Lucano lui-même à la sortie de 3 heures d'interrogatoire par la justice italienne ce jeudi. Et comme lui, nombreux sont ceux à voir derrière son arrestation un geste politique dans une Italie qui se déchire autour de la question des migrants. Domenico Lucano a autant de mérite que ceux qui, pendant la période nazie, ont protégé les Juifs. Voilà l'une des dernières déclarations de soutien adressées au maire calabrais de la part du très controversé Vittorio Sgarbi, plutôt connu pour ses positions très à droite. Des louanges qui ne sont pas du goût du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini qui avait réservé quelques mots à Domenico Lucano début juin en disant « c'est un zéro ». Près de 4 mois plus tard, jour pour jour ou presque, Matteo Salvini ne voudrait pas être accusé de se réjouir de l'arrestation de Domenico Lucano et commente presque sobrement « ça ne me fait pas sourire, je prends simplement acte qu'il profitait de l'immigration clandestine et on l'a arrêté ». Car Domenico Lucano n'est pas un maire comme les autres, c'est l'un des symboles les plus retentissants de l'Italie qui accueille les migrants. Tout est parti de l'idée suivante, faire revivre Riace, son petit village calabrais déserté par les habitants, en y accueillant des migrants. Nous sommes alors en 2004 et depuis Riace est devenu un modèle d'accueil dans le monde entier. Un modèle qui doit être protégé pour des milliers d'Italiens qui ont appelé à manifester leur soutien au maire calabrais ce samedi 6 octobre du nord au sud du pays.
Jamais on n'avait vu tel pléthore de candidats pour les élections législatives de ce week-end en Lettonie. Pas moins de 16 partis sont en lice afin de renouveler le Parlement pour les 4 prochaines années. De nouvelles formations politiques représentant toutes les tendances ont fait leur arrivée dans l'arène. Elles espèrent bien changer la donne, mais cette fragmentation du paysage politique peut aussi compliquer la formation d'un nouveau gouvernement. À Riga, le reportage de Marielle Vituro.
La rue de Moscou traverse le quartier de Kengarax, une zone résidentielle de Riga. À l'un des carrefours, Emil essaye d'éviter Antanina et Martins pour ne pas discuter politique. Ces deux membres du parti de gauche, les progressistes, lui tendent un tract avec un programme très social. Emil, étudiant en économie, ira voter samedi. Mais pour quel parti, il ne sait pas encore.
Le choix est plus difficile cette fois. Il y a 4 ans, je savais pour qui voter, mais ils m'ont déçu. J'hésite entre 2 candidats en ce moment. Mais qu'il y ait autant de partis, pour moi, c'est ça la démocratie.
Le parti des progressistes est l'un des nouveaux venus sur la scène politique lettonne. Antonina Nenacheva, tout juste 30 ans, est la candidate numéro 1 dans la capitale lettonne, Riga. Cette professeure d'économie au lycée est plutôt confiante dans les chances de son parti.
Notre société a vraiment besoin d'idées de gauche. Égalité des chances, impôts dégressifs, un système de santé pour tous, ce qui est l'une de nos priorités. Mais dans le même temps, nous défendons les idées social-démocrates des droits de l'homme. Et ces questions-là sont difficiles à aborder dans notre société. Elle n'est pas encore assez libérale pour accepter l'égalité des sexes ou des droits pour les couples de même sexe.
La scène politique lettonne a toujours été marquée par la création de nouveaux partis au nom toujours improbable. Celui appelé « À qui appartient la Lettonie » est l'un d'entre eux. Créé par une star du showbiz letton, sa rhétorique très populiste séduit. Comment les partis peuvent-ils émerger si facilement ? Veikos Politis, député du parti Nouvelle Unité, un parti plutôt à droite, se présente lui aussi aux élections. Il a des éléments d'explication.
La Lettonie est le dernier pays de l'Union européenne à avoir introduit le financement des partis politiques par le budget national. C'était en 2012, après les luttes féroces entre le Parti populaire et le premier parti letton, deux partis d'oligarques. Mais le système politique letton n'a pas encore les financements suffisants pour assurer son développement pérenne sur le long terme. Jusqu'en 2017, 200 personnes suffisaient à fonder un parti, ce qui encourageait l'apparition de formations politiques éphémères. L'année dernière, ce chiffre est enfin passé à 500.
Iveta Ratinica est l'un des visages de Pour, une alliance nouvelle de plusieurs partis à tendance centre-libérale. Membre du conseil municipal de Riga, elle est candidate au Parlement en Latgalie, une région tout à l'est de la Lettonie. Pour elle, la multiplication des partis est un phénomène naturel.
Nous voulons tous que les idées libérales soient représentées, mais si l'on n'est pas numéro 1 ou 2 sur la liste, il est très difficile d'être élu au Parlement. Les candidats ont souvent beaucoup d'ambitions personnelles et c'est ce qui fait que l'on se retrouve avec une multitude de partis.
Antonina Nenacheva se réjouit de cette pléthore de noms pour le scrutin législatif de demain.
Jamais le choix n'a été aussi large. Le danger existe que certains partis traditionnels ne dépassent pas la barre des 5% et n'entrent pas au Parlement. Mais pour la première fois, il est vraiment possible de voter pour un parti proche de nos idées et pas pour la liste la moins dangereuse.
Le dernier sondage publié par la radio publique lettonne indique que 6 des 16 partis en liste devraient franchir la barre des 5% nécessaires pour entrer au Parlement. Mais ce morcellement du paysage politique n'est pas de bon augure. Le futur de la Lettonie va se jouer dans le jeu des alliances politiques à la publication des résultats. L'arrivée de trublions populistes au pouvoir peut faire basculer la Lettonie dans le camp des démocraties illibérales, peu respectueuses des institutions en place, comme la Hongrie.
Autre élection à venir ce week-end en Bosnie-Herzégovine, sans surprise réelle à attendre. Depuis bientôt 30 ans, ce sont les partis nationalistes, bosniaques, serbes et croates, qui l'emportent. Et le 7 octobre, il y a fort à parier qu'une fois de plus, le scénario se répétera lors de ce scrutin législatif dans les deux entités d'un pays toujours plombé par les divisions et le marasme économique. Le billet de Simon Rico.
Bakir Izetbegovic, le fils du premier président post-indépendance, a toutes les chances de conserver la main auprès des Bosniaques avec son idéologie islamo-conservatrice pro-Erdogan. Dragan Čović, ancien militant communiste pro-yougoslave devenu le chantre du patriotisme croate, se prépare déjà à gouverner et à créer une troisième entité pour son peuple, Milorad Dodik, l'homme de la CIA qui a opportunément retourné sa veste pour se faire pro-russe et grand serbe, espère bien asseoir encore un peu plus son autorité en Republika Srpska et parvenir à organiser enfin son référendum sur l'indépendance de l'entité serbe. À l'approche des élections législatives du 7 octobre, les discours nationalistes ont le vent en poupe, alors même qu'aucun de ces partis ne propose de projet d'avenir concret qui permettrait d'enrayer l'exode massif qui vide la Bosnie-Herzégovine. Face à ces bulldozers nationalistes et corrompus, au clientélisme bien huilé, les formations citoyennes peinent à se faire une place. Il y a 4 ans, quelques mois avant les précédentes législative, la révolte des plénums, ce vaste mouvement citoyen anti-corruption, avait réussi à faire tanguer le système ethno-nationaliste avant finalement de se saborder, faute d'avoir su transformer politiquement la colère populaire. Confrontés à un mur, les formations citoyennes se déchirent. Le Parti social-démocrate en est le triste exemple. Après s'être brûlé les ailes en gouvernant en coalition avec les nationalistes bosniaques, la locomotive citoyenne a implosé en 3 branches, aujourd'hui inconciliables. Pourtant, de nombreuses voix appellent à une union des forces citoyennes. Le changement viendra-t-il alors de la rue ? Depuis 6 mois, des milliers de personnes se rassemblent chaque soir dans la capitale de l'entité serbe, Banja Luka, pour demander la vérité sur la mort de David Dragicevic, retrouvé noyé à la mi-mars, un suicide pour les autorités, un meurtre politique pour ses proches. Ce mouvement, dont l'audience dépasse les clivages communautaires, promet en tout cas le blocage du pays à partir de vendredi soir pour empêcher la tenue du scrutin dimanche.
dossier européen à la une du Courrier International cette semaine, c'est avec Sébastien Hervieux. Bonjour Sébastien.
Bonjour Laurent.
Péril sur le Vatican, c'est la une choc du numéro paru hier. Affaire de pédophilie, fronde des conservateurs, la confiance des catholiques s'est érodée et l'Église se retrouve divisée. Et une question qui revient souvent dans la presse étrangère, le pape François doit-il partir, Sébastien ?
Oui, en effet, Laurent, c'est une question qui agite plusieurs journaux. Prenez par exemple le Financial Times à Londres. Pour lui, eh bien, c'est l'aile traditionnaliste de l'Église qui tente par tous les moyens de se débarrasser de François. C'est bien une guerre qui se joue, n'hésite pas à dire le quotidien économique. Pour preuve, je cite ce brûlot sulfureux de 11 pages, écrit par un religieux proche des conservateurs. Il accuse François d'avoir couvert les agissements de l'ancien archevêque de Washington dans des affaires de pédophilie. Mais la lettre donne surtout les noms de 12 responsables religieux, tous alliés du pape. Alors pour le FT, les traditionnalistes de l'Église sont en train d'exploiter les affaires d'abus sexuels pour, je cite, « traîner dans la boue François ». Leur objectif, eh bien, il est simple, le faire tomber, car ils ne supportent pas vraiment les réformes d'ouverture prônées par le pape, en particulier ses positions plus modérées sur l'avortement, le mariage gay, la contraception, et son souci d'être plus proche des pauvres. Le journal voit même plus loin. Pour lui, cette rébellion interne veut empêcher que François nomme des cardinaux plus progressistes, ce qui ferait basculer pour de bon le Vatican dans le camp des réformateurs.
Sébastien, tous ces remous au Vatican ne sont pas bien sûr sans conséquences sur les catholiques et la presse là encore s'en fait l'écho.
Oui, c'est ce que raconte le Washington Post qui a été interrogé des fidèles américains qui sans mauvais jeu de mots sont en pleine crise de foi. J'entends des vieux paroissiens me dire « tous les archevêques doivent démissionner, c'est du jamais vu » a confié au journal une responsable d'association catholique. Alors des fidèles continuent tout de même à défendre François. Un pratiquant se demande si les réformes ne sont pas faites sous son pontificat, qui les fera ? Mais d'autres sont plus sceptiques, assez déconcertés par la gestion par le pape des scandales d'abus sexuels, en particulier au Chili. En Italie, c'est la Repubblica qui a trouvé un autre coupable, elle, de la déstabilisation du Vatican. Pour le quotidien romain, c'est l'extrême droite italienne qui est à la manœuvre. Alors si elle alimente la rumeur d'une église divisée, eh bien c'est parce qu'elle a un objectif politique précis, celui de vouloir récupérer les catholiques les plus conservateurs qui sont déçus par François. On appelle cela, Laurent, le parti des soudeurs, ceux qui veulent souder l'extrême droite politique avec l'extrême droite catholique. Et vous connaissez le plus connu d'entre eux, eh bien c'est Steve Bannon, le sulfureux ex-conseiller de Donald Trump.
Alors un autre reportage à lire dans ce numéro de Courrier International, le blues des chauffeurs routiers polonais. Clairement, Sébastien, la profession ne fait plus rêver, hein.
Ah oui, Laurent, et c'est un danger pour la Pologne car le transport est un secteur stratégique pour le pays. Il représente 6,5% du PIB. Mais clairement, les jeunes se désintéressent de ce métier aux conditions de travail de plus en plus difficiles. Être routier, c'est vivre comme un nomade, raconte cet article de Gazeta Wyborcza. On travaille, on mange et on dort dans la cabine de son camion. Sur les aires de repos, il peut y avoir une centaine de poids lourds et un seul WC, souvent par moins 20 degrés. Le trajet peut durer 3, voire 4 semaines. Et le quotidien de Varsovie continue de lister tous les autres problèmes, une colonne vertébrale en miettes, des problèmes aux yeux, pas de vie de famille. Pourtant, Laurent, les salaires sont plus élevés que dans d'autres professions. Prenez un routier international expérimenté qui gagne entre 1400 et 1900 euros net, contre moins de 800 euros ailleurs en moyenne. Mais cela ne suffit pas, raconte le journal, les jeunes veulent passer les week-ends chez eux.
Alors, quelle solution pour ces routiers polonais ?
Le journaliste a interrogé un chauffeur qui s'appelle Yann et lui a trouvé la solution. Il a quitté tout simplement son employeur polonais et roule désormais pour un transporteur suédois. Ce dernier lui permet de travailler 4 jours de suite avant de passer 3 jours chez lui. Alors comment est-ce possible ? En fait, un autre chauffeur vient relayer Yann là où il se trouve. Pour lui, il faut absolument que les transporteurs polonais changent l'organisation du travail et aussi le montant des cotisations sociales, trop élevé à ses yeux. Il faut aussi, selon lui, garantir une retraite convenable. Il parle ainsi d'un de ses amis qui a 44 ans de métier, qui a parcouru toute l'Asie et qui ne touche que 400 euros par mois. Yann est assez atterré, il dit « Mon ami est malade et ne veut même plus sortir de l'hôpital pour économiser sur les médicaments et la nourriture. » Alors aujourd'hui, les transporteurs polonais s'en sortent en recrutant des chauffeurs ukrainiens. Mais la source se tarie, s'inquiète le journal.
Alors enfin, Sébastien, Courrier International revient cette semaine sur la déclaration de candidature de notre Manuel Valls à la mairie de Barcelone. Et à Courrier International, vous posez cette question, bonne ou mauvaise idée ?
Oui, Laurent, nous avons pris deux articles de la presse espagnole qui ne sont pas franchement d'accord entre eux. Il y a d'abord El País qui, lui, se prononce contre l'arrivée de l'ex-premier ministre français. Pour le quotidien madrilène, on se demande ce que Valls fait là. Je cite, c'est un jouet cassé de la politique française qui ne cherche qu'à relancer sa carrière dans la capitale catalane. Je cite toujours, Valls tente un retour nostalgique dans la cité de sa famille paternelle pour nourrir son illusion qu'il a encore une place en politique. Alors, le journal ne mâche pas vraiment ses mots. Déjà, depuis quelques mois, le charme est rompu, juge-t-il. Peut-être à cause de l'arrogance du personnage. Alors, au contraire, pour le journal ABC, Valls a toute sa place dans la course à la mairie de Barcelone. Le quotidien madrilène conservateur ne tarit pas d'éloges. Valls a de l'énergie, de l'expérience, de l'instinct, de la détermination et une grande force de caractère. Alors certes, il a un ego monumental, continue le journal, mais il ne manque pas non plus de courage et d'intelligence. Et lui seul peut combattre le nationalisme et aller chercher un vote transpartisan. Et si Valls échoue, anticipe déjà ABC, ce sera, je cite, à cause de l'égoïsme aveugle de formations politiques enquistées dans de vieux schémas sectaires.
Une candidature qui au moins ne passe pas inaperçue. Tous ces articles et dossiers à retrouver dans Courrier International. Merci Sébastien Hervieux, à bientôt dans Accent.
À bientôt.
For more than a year, ominous rumors have been privately circulating.
Music. Let me know when you're ready.
That's a good start.
Bonjour Vincent Thébal.
Bonjour Laurent Berthaud.
Aujourd'hui dans Accent, un groupe bel et bien européen, il ne faut pas se fier aux apparences.
Eh oui, 10 ans après leur début, The Rebels of Tijuana ne sont toujours pas mexicains mais bel et bien suisses. Les 5 musiciens sont originaires de Genève, où ils peaufinent au fil des disques leur rock très référencé. Pour leur 4e album, Asile, le groupe est encore allé piocher dans les années 70 psychédélique avec des clins d'œil au Grand Ouest américain, notamment via l'utilisation récurrente de la guitare pedal steel, mais aussi avec une écriture qui navigue entre poésie élégante et embardée surréaliste. Il y a comme un vent de liberté qui flotte sur ces chansons, au format tantôt étiré, tantôt plus ramassé, comme cette bien nommée « Celui qui danse ».
Extrait du dernier album des Rebels of Tijuana pour clore cette dernière édition d'Accent d'Europe de la semaine réalisée et mise en onde par Françoise Grelot.